Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre émission Radio Foot International sur RFI, comme chaque jour. Aujourd'hui, nous évoquerons ce PSG étourdissant pour son premier match en Ligue des Champions. Ils ont anesthésié le Real Madrid, les joueurs du Paris Saint-Germain, pour imposer leur rythme et surtout leur but 3-0 grâce au duo étincelant, notamment Di Maria, Gueye et ou alors peut-être on s'y attachera au duo de dirigeants de ce club, Leonardo Tuchel. Ce PSG est-il plus fort sans sa MCN? Nous y répondrons. Faut-il pour autant s'emballer?
Si quelqu'un me demande si on gagne la Ligue des Champions, c'est fini. Je pars. Le second, après cette question, je sors.
La réponse avec Thomas Tuchel, l'entraîneur de ce PSG. Les Merengues sont apparus affaiblis et sans ressort. En Espagne, l'entraîneur des Beaux Jours est le coupable idéal, mais la responsabilité se situe-t-elle autour plutôt du duo Pérez-Zizou? Et quels échos dans la péninsule? Eh bien, nous les aurons avec François David. Les temps forts de cette première journée de Ligue des Champions, nous en avons retenu trois. La défaite d'entrée des champions en titre Liverpool, l'Ajax, qui reste l'Ajax, et nous émerveille encore. Et puis le Barça, décevant, sans Messi, ou même avec d'ailleurs. Et pour évoquer ces sujets, un Parisien heureux, un Parisien qui hier fêtait son anniversaire plutôt dignement. Bonjour Eric Rabé-Sandra.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Philippe Bouchard est là aussi. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Ex l'équipe aujourd'hui, édition Solar. Et puis Nabil Djellit est
bonjour
là
Annie.
Aussi. Bonjour Nabil.
Bonjour à tous.
Il a enlevé ses lunettes de soleil. Nabil, dans le studio, il n'y en a pas trop. Olivier Pron, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour. Radio Foot. Deux petites choses. Nous avons d'abord une pensée émue pour notre ami et ami de Radio Foot, Yoro Mangara, qui est là-bas du côté de Dakar. Et puis un bravo, un grand bravo à Didier Drogba, choisi pour présenter à Paris la soirée du 64e Ballon d'Or le 2 décembre prochain. Ce sera au Théâtre du Châtelet, nommé à 8 reprises Didier Drogba, mais jamais récompensé. Et bien voilà, il présidera la soirée du Ballon d'Or. Radio Foot, c'est parti.
Les drapeaux parisiens qui sont de sortie, les chants que vous entendez, quelques fumigènes également. On fait la fête ici au Parc des Princes ce soir pour célébrer cette victoire implacable sur le Real de Madrid, de Paris qui mène 3-0. Et on peut lever les bras au ciel puisque l'arbitre Anthony Taylor vient de siffler la fin du match, et 1 et 2 et 3-0.
On a fait un gros match. On a montré que quand on mettait l'envie, on pouvait gagner. Je pense qu'en première mi-temps, c'est Paris qui a fait le jeu et en deuxième, c'est le Real. Après, j'avais juste une frayeur, c'était en défense. Kimpembe, ça me faisait un peu peur. Mais il s'est mis dans son match et il a fait un bon match. Je pense que ce soir, on a prouvé que, comme je l'ai dit, quand on jouait vraiment, on pouvait gagner. On a aussi montré qu'avec un effectif un petit peu réduit, surtout en attaque, nos trois attaquants, ils sont pas là. Il y a beaucoup de joueurs qui ont montré qu'ils étaient au niveau de la Ligue des Champions ce soir. On a joué une équipe qui a 13 Ligue des Champions, on a gagné 3-0 sans Neymar, donc on peut jouer sans Neymar, oui. Le week-end dernier, il a sorti un geste de nulle part. Ok, c'est un grand joueur, mais il nous a manqué de respect et malheureusement pour lui, il va tomber. Il tombe. Aujourd'hui, il est dans l'indifférence. Voilà, on a montré qu'aujourd'hui, sans lui, on pouvait gagner et c'est nickel.
C'est nickel, les commentaires de Frédéric Suto qui retransmettait ce match hier sur l'antenne de RFI avec vous Olivier Pron, et puis des supporters rencontrés à la sortie du Parc des Princes par Ralph Samoury. Alors êtes-vous surpris d'abord, première question, allez, petit tour de table. Avez-vous été surpris par le spectacle offert hier par le PSG? Eric, je sais que oui.
Oui, ah bah oui, bien sûr. Moi je m'attendais surtout, je m'attendais à ce qu'ils perdent 2-0 hier soir. Sincèrement, sur le l'impression d'avant match.
L'impression strasbourgeoise,
voilà,
peut-être.
Ouais, aussi parce que on n'arrivait pas à comprendre la prestation des Parisiens. C'était un mélange de fatigue et de manque de rythme. Donc ça m'a vraiment inquiété par rapport à ce match du Real. Je me suis dit bon, comment ils vont faire en 3 jours pour récupérer d'énergie, parce que ils nous ont pas montré grand chose. Et en fait, c'était certainement un calcul de la part des joueurs pour ne pas donner tout. Et finalement, ça a bien marché.
Jean-Philippe, un calcul des joueurs?
C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un match de
de reprise de Ligue des Champions et c'est rarement les meilleurs. Donc là, on est tout de suite dans le ton. Et ce qui était très intéressant hier, c'est l'équilibre de l'équipe, même sans les grands blessés, on va dire, ou les grands suspendus. Mais l'équilibre était tout. Enfin, ça a été vraiment.
L'élément surprenant.
Il y a la trace de
nouveau.
Ouais, il y a la trace
nouveau.
Ouais.
Parce que
c'est ça qui est soudain, parce qu'on l'avait pas en début de saison en championnat. Ça a flotté un peu. Et là, effectivement, à la fois derrière et au milieu, on a vraiment une équipe très solide. Et ça c'est assez rassurant pour la suite.
C'était votre surprise de la soirée, Nabil.
Bah oui, on peut être que surpris. 3-0 face à une grosse marque européenne, c'est tout sauf anodin. Pour moi, le match, il était illisible. On en avait discuté ici. Franchement, d'un côté, vous aviez un Paris Saint-Germain, voilà, sans ses stars ou sans ses attractions. Puis de l'autre côté, vous aviez un Real qui tâtonnait depuis le début de saison, qui encaissait beaucoup de buts. Pour moi, le Paris Saint-Germain a réussi un très bon match, mais je crois qu'on a vu aussi, et je ne veux pas minimiser ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, un Real d'une faiblesse absolument abyssale.
Et on y viendra. Olivier Pron.
Ah oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nabil, c'est ce qu'on disait aussi hier, hein, que si le PSG nous avait enchanté, le Real nous avait étonné.
Non, mais vous avez été surpris, vous attendiez pas ce match hier soir en partant au parc.
Ben non, c'est ce que je dis, j'ai été surpris à la fois par la qualité de jeu du PSG, mais par la nullité du Real Madrid. Et donc, à l'arrivée, ça explique le score. Donc, voilà, pour répondre à votre question, ce que j'étais en train de faire, oui, j'ai été surpris.
Alors, ce Paris Saint-Germain a surpris. À qui attribuer les lauriers de cette belle victoire? Eh bien, d'abord, écoutons le capitaine des Parisiens, le grand Thiago Silva, à votre micro, remercier ceux qui ont pour lui construit cette victoire.
On a très bien maîtrisé le match, on a très bien préparé ce match-là. On était efficace, on était solide. C'est ça qu'il faut le faire. Même dans le championnat, on doit jouer comme aujourd'hui, avec des caractères, avec des personnalités. Agressif le moment juste de faire des appels. Je dois féliciter surtout à le staff technique qui a très bien préparé ce match-là. Tout ce qu'ils ont passé, nous ont donné, on a fait aujourd'hui, on a réussi à faire bien. Et c'est pour ça qu'on a mérité de gagner 3-0. Un groupe solide, un groupe fort, ça fait 25 joueurs. C'est pas seulement 11. Aujourd'hui, malheureusement, Dou, il était blessé et il est suspendu. Mais la démonstration des autres qui sont rentrés, c'était magnifique aussi.
Alors louer le collectif, l'esprit d'équipe, mais faut-il ajouter ou distinguer d'ailleurs d'abord, comme le défenseur brésilien, le staff? C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi la victoire de Thomas Tuchel, voire de Thomas Tuchel Leonardo, même si on sait que c'est pas forcément la grande entente, Eric?
Là oui. Franchement, moi, j'étais le premier à le critiquer avant.
Ils les ont bien préparés.
Et surtout, ils ont bien préparé parce que, d'abord, nous, on n'avait pas l'information de savoir si Kimpembe était capable de jouer ce match-là. Il était aligné dans le 11, mais on avait un gros doute quand même parce qu'il n'avait pas joué depuis le début de saison. Donc là, c'était vraiment l'inconnu de le retour de Meunier était une inconnue aussi parce qu'on s'est dit bon. Il est là pour dépanner parce que Dagba avait été choisi depuis le début de saison, donc lui n'avait pas beaucoup joué non plus. Donc il y avait déjà ces deux inconnus là et le fait de ne pas avoir Marquinhos en défense. Là, c'était moi la plus grande inquiétude, c'est-à-dire que je me suis dit bon, en face il y a quand même les trois entre Bale Hazard et Benzema. Il y avait quand même trois morceaux et qu'il fallait pour moi il fallait Marquinhos en défense centrale.
Donc c'est
et
un
finalement
coup...
le choix a été très très bon parce que Marquinhos au milieu de terrain avec Gay et Verratti, ils ont été énormes ces trois. Et puis derrière ça a tenu la baraque comme si mais alors c'est sûr qu'ils ont pas été embêtés par ce Real là. Mais il n'empêche qu'ils ont fait le boulot comme il fallait.
Les lauriers pour Tuchel, Jean-Philippe?
Oui, parce que je pense que ça part aussi de... Enfin, il y a la préparation du match, certes, mais ça part de plus loin que ça. Le grand bonhomme, hier, c'était quand même Gay. Et Tuchel, ça fait un an qu'il le veut. Il le voulait au mercato d'hiver. Il l'a eu cet été. C'est vraiment une volonté de sa part. Et là, on en voit, il en tire les lauriers. Parce que, effectivement, c'est un complément avec Verratti... quand les deux sont en forme, on se dit, enfin toute l'année on a eu le feuilleton Rabiot toute l'année dernière, mais là, d'un seul coup on n'y pense plus.
Il a su l'utiliser en
Rabiot,
plus. Quoi.
Voilà. Mm-hmm. Donc là vraiment, il y a du travail aussi de fond. Ça renforce un peu les demandes de Tourelle qui n'étaient pas très bien entendues l'année dernière, quoi. Et sur le mercato. Alors, le Real a dépensé beaucoup d'argent aussi, mais ils avaient des blessés, des suspendus aussi, mais on voit que le PSG finalement est plus homogène et moins diminué que le Real.
Nabil, c'est un bon travail tactique, un bon travail autour de l'équipe, sur aussi sans doute travailler l'état d'esprit.
Ben, il a repris la main, Tuchel, mais moi je pense que le plus dur commence, en fait, aussi paradoxalement que ça soit. Quand le Paris Saint-Germain bat le Real, c'est encore quelque chose qui n'est pas normal. On a l'impression qu'ils viennent de gagner la Ligue des Champions. J'exagère un peu, mais il y a un peu de ça. Hier, c'était des discours de festivité. Quand c'est le Real qui colle un 3-0 au Paris Saint-Germain, ben, c'est normal parce que c'est le Real. Ou quand c'est le Barça, c'est normal parce que c'est le Barça.
Alors, donc le plus dur commence, c'est-à-dire qu'il va falloir tenir la distance.
Ouais, en termes de management, en termes d'état d'esprit, hier, les planètes se sont alignées pour différentes raisons. Et franchement, il en a ses mérites. On parlait notamment de Gueye, de Marquinhos en sentinelle. Mais pour moi, son travail de manager, c'est maintenant. C'est-à-dire que ça va être
De les emmener jusqu'au bout.
De les emmener jusqu'au bout. Et surtout, d'arriver à conserver cet état d'esprit et surtout de greffer des joueurs qui sont capables de sublimer encore plus cette équipe. On les connaît parce que si vous mettez hier Mbappé et Neymar et que tout le monde est dans le même état d'esprit, je dis bien tout le monde dans le même état d'esprit, et il y a une discipline collective, c'est pas à 3-0 que ça finit.
Ouais, ça c'est vrai.
Ça finit à 5-0.
C'est sûr.
Hier, ça aurait pu finir à 5-0 aussi avec les mêmes joueurs. Hein.
Avec Guimaraes,
il y a vraiment, ça peut, le score peut être bien plus lourd. Ils ont été un poil maladroit. Voilà, on aurait pu avoir 2-3 buts de plus. Il n'y avait pas photo. La difficulté, elle est dans la gestion maintenant. Oui. C'est avec ce qu'ils ont montré hier, ils ont montré qu'il y avait un groupe, qu'il y avait un banc qui était capable de battre le Real Madrid. Il va falloir maintenant réintégrer Mbappé, Cavani et Neymar.
Et c'est ça le plus dur.
Ça semble ahurissant de se dire, ça va être un problème de les réintégrer. Mais oui, va falloir quand même trouver une place, garder Di Maria. Parce qu'il n'y a aucune raison de l'envoyer sur le banc avec ce qu'il a montré. Donc voilà, il y a 12-13 joueurs potentiellement et on joue qu'à 11.
Est-ce que cette
c'est
MCN...
C'est exactement ce qu'il faut pour réussir une saison.
Mais est-ce que c'est MCN, on entendait tout à l'heure des supporters, on peut gagner sans Neymar et tout. Est-ce qu'ils sont dispensables, ces trois personnages?
Moi, je ne suis pas d'accord avec cette version-là, parce que j'ai entendu le supporter tout à l'heure. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné le premier match d'une phase de poule. Et m'expliquer par A plus B qu'on peut faire sans Neymar. Oui, on peut faire sans Neymar, mais on a moins de chance.
On a moins de chance de gagner. Ce qu'on se dit, parce que c'est pas seulement avec ou sans et parce qu'on lui en veut, mais c'est est-ce que ces joueurs, on le dit souvent, des grands joueurs dans une équipe, qui vont aimanter des ballons, qui vont avoir un rôle tel que l'équilibre ou l'esprit collectif est un peu oublié. C'est pour ça qu'on pose la question.
Hier, le Paris Saint-Germain, pour aller très vite, a joué en équipe. Et quand Neymar et Mbappé sont là, le Paris Saint-Germain.
C'était pour pallier les grandes absences.
Voilà, le Paris Saint-Germain joue pour ses joueurs. Elle est là, la différence.
Et bien sûr. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là.
Et ça s'était déjà passé à Manchester, hein. Je me trompe pas.
On a un exemple avec le match de Toulouse ce week-end, même si le niveau n'était pas le même. Dans l'état d'esprit de Di Maria, à partir du moment où il y a Neymar sur le terrain, il veut jouer toutes les deux secondes.
Strasbourg,
pardon. Oui. Il veut jouer absolument avec Neymar tout le temps. Et c'est une horreur, en fait, dans la construction du jeu. C'est contre-productif. Donc, et comme Mbappé fait la même chose, on perd un peu l'identité du collectif. C'est pour ça qu'hier, le match nous a amené à découvrir un collectif qui était capable de fonctionner sans les trois devant. Maintenant, le plus dur, c'est ça. Ça va être de les réintégrer en gardant ce collectif.
Et n'oublions pas que l'année dernière, le PSG avait battu Liverpool quand même.
Bah oui.
En phase de poule, donc rien. Enfin, la saison n'est pas finie.
Jean-Philippe, Neymar, est-ce que ça peut aussi, on l'a vu en tribune, aux côtés de Mbappé pour suivre ce match. Est-ce que ça peut lui donner peut-être envie, lui, on a vu ses états d'âme au cours de l'été, envie de partir, et qui se dit bon, bah cette équipe, ça peut quand même être bien pour moi et pour ma carrière aussi.
Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que là, le fait qu'il n'y ait pas, on va dire, Neymar, Mbappé, et Cavani aussi sur le terrain, a sans doute permis à l'équipe de se mobiliser un petit peu plus. Mm-hmm. Voilà. Et de jouer un petit peu plus en groupe et un peu plus solidaire. Donc ça a eu un effet comme ça. Mais ça va avoir aussi un effet sur eux, sur Neymar.
Boomerang.
C'est-à-dire que eux qui n'ont pas joué vont se dire, on n'est peut-être pas si
indispensable.
assuré de jouer que ça, et d'autant plus que la saison va être longue. Le PSG, ils vont être sur tous les
tableaux. Ils sont assurés de jouer quand même.
Jouer la Ligue des Champions que le championnat.
Ils vont jouer, mais le fait que Di Maria qui sort un gros match, voilà. Enfin, et à un moment, Tourelle, il va faire aussi des choix et. Mais
Tourelle parlait toujours l'année dernière de ses quatre attaquants. C'était la MCN.
Lui, il est dedans.
On n'a pas parlé d'Icardi, mais il va faire des matchs aussi. Enfin, voilà.
Il n'est pas là pour faire des selfies sur le banc, Icardi. Mais
voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est
il va y avoir une vraie concurrence.
Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que là, tu as du monde qui va pouvoir jouer.
Mais ça peut être une émulation positive, cette concurrence.
C'est une émulation positive. Je pense que pour Neymar, je pense qu'il a envie de s'inscrire dans ce collectif. C'est-à-dire que J'imagine que le match de Manchester, c'est ce qui a déclenché le fait qu'il ait envie, de se barrer. Sincèrement, je pense que il s'est dit comment on a pu perdre contre une équipe de Manchester comme ça. Et là, je pense que ça l'a marqué psychologiquement en disant, moi, s'ils sont pas capables de gagner contre Manchester équipe 3, j'ai pas envie de. Et là, aujourd'hui, je pense que le match contre le Real a donné une image différente et il a envie de s'inscrire dans ce collectif.
Juste en deux mots, on a souvent tendance à dire lorsque le Paris Saint-Germain réussit une grosse performance en phase de poule face au Bayern, au Real ou à Barcelone, qu'elle a prévenu l'Europe. Mais moi, pour moi, hier, c'est surtout le Paris Saint-Germain a prévenu ses stars et elles sont prévenues
c'est
aujourd'hui,
ça, c'est vrai.
Plus que l'Europe. Donc il faut sortir un petit peu de. Et il a raison, Tuchel, quand il arrive, il dit c'est pas la peine de me demander si on va gagner la Ligue des Champions.
Ouais.
Il faut créer les conditions pour la gagner et non, ils ont les ingrédients pour.
J'aurais bien aimé qu'un confrère pose quand même la question. Pour
laquelle
ta route de hier, je me dis quelqu'un tente la faire. J'étais dans une émission qui s'appelle Radio Foot qu'on vient de lancer qui marche pas mal.
Olivier, on le sait, pour terminer juste sur l'ensemble de l'équipe, le Paris Saint-Germain, c'est pas la première fois qu'il commence plutôt bien la phase de poule depuis toutes ces dernières années.
Il y a deux ans, 3-0 contre le Bayern.
Voilà.
Ça avait précipité la chute d'Ancelotti, mais c'est vrai. Je lisais chez nos confrères ce matin, et alors moi je me souviens avoir commenté ce match-là. Et du coup, ça m'a rafraîchi la mémoire. Je commence à vieillir un peu, donc les souvenirs n'étaient pas très frais hier, mais le match n'avait pas du tout été abouti de la même manière. Le Bayern avait beaucoup
dominé.
D'absence. Ancelotti avait fait des changements à la dernière minute et avait mis Hummels, par exemple, sur le banc. Ça avait perturbé le Bayern et ils avaient eu des occasions.
Mais plein.
C'était pas du tout le Real d'hier.
Et on l'avait vu au retour après le Bayern.
Ce qui est bon hier par rapport au match, c'est qu'en fait tu as une équipe qui est en pleine maîtrise, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais paniqué, et ça c'est nouveau au Paris Saint-Germain.
Elle a joué jusqu'au bout, et elle a maîtrisé son sujet,
c'est vrai, c'est important. C'est-à-dire que le Bayern, on a vu, ils ont gagné. Liverpool, c'était plus compliqué parce qu'en face, il y avait... Voilà. Mais là, il y a eu une maîtrise totale.
La première à la 90e, ça joue. D'ailleurs, le troisième but arrive à la 90e. Alors qu'à 2-0, on sait bien que c'est plié. Vu ce qu'a montré, ou ce que n'a pas montré le Real, qui n'a pas cadré une frappe.
Alors, on a parlé de l'équipe dans son ensemble. Les individualités, alors ils sont super bien notés, pratiquement tous ces joueurs. Nos confrères de l'équipe leur mettent une note 8 globale. Ils sont évidemment tous au-dessus de la moyenne. Nous, on en retient deux. D'abord, le double buteur, l'étincelant Angel Di Maria, qui poursuit donc, on peut dire ça, Eric, lancé de l'année dernière.
Bien sûr, il poursuit. À partir du moment où Tuchel l'a intégré dans le trio, il s'est dit, c'est-à-dire qu'il y avait avant il y avait Cavani, Mbappé et Neymar, et Tuchel a dit mais non, il y a Di Maria qui s'inscrit avec ses joueurs. Et ben il a, c'est comme s'il avait eu cette reconnaissance qu'il attendait depuis longtemps, et ça l'a boosté, ça lui a mis une dynamique incroyable, et il est toujours sur cette dynamique. Hier, il avait envie d'être le héros, et on avait envie que ce soit le héros parce que c'était le seul qui restait des quatre. Et il a été décisif, il a été comme on s'attendait.
Magnifique.
Donc c'est ça qui est incroyable avec lui.
5 buts en 7 matchs là.
On sait qu'il aime choisir un peu ses matchs de temps en temps parce que c'est un compétiteur et qu'il aime les paillettes lui aussi. Hier, il était au rendez-vous et c'était dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant.
Disons-nous franchement les choses. Hier, effectivement, il est leader de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il fait les efforts nécessaires, mais si les autres viennent et qu'ils voient que, par exemple, sur le repli défensif, il y en a qui carottent. C'est la vérité, tu as tes joueurs. On voit bien que certains ne font pas les replis nécessaires, Mbappé, Neymar, par séquence. Est-ce que ça ne va pas impacter son état d'esprit, par exemple, Di Maria? Parce que hier, finalement, c'est lui le chef, tout tourne autour de lui, fait la différence, c'est un joueur fantastique et merveilleux, il n'y a rien à dire là-dessus, et c'est la plus grande réussite de Tuchel jusqu'à présent, individuellement. Mais moi, je demande encore à voir avec les autres, le même Di Maria avec les autres, le même Di Maria qui regarde les autres. Les circuits de passe, ça ne sera pas les mêmes, parce que si on cherchait Di Maria en premier, on ne cherchera pas Di Maria en premier, on cherchera Neymar. Et voilà, c'est aussi ces interrogations-là qui sont sur le tapis aujourd'hui, on peut pas le nier.
Un petit mot sur l'Argentin, Jean-Philippe ?
Non, mais ce qui change quand même cette année, et ça c'est le contexte du club, c'est que Tuchel est beaucoup moins bridé dans ses choix que quand il y avait Antero Henrique, qui avec Henrique, Neymar, il jouait, c'est ce qu'il voulait de toute façon. C'était dealé d'avance. Et ça, bien sûr qu'il va jouer Neymar quand il sera en état. Et c'est bien pour le club. Mais il sera un peu moins imposé d'emblée. Et il n'est pas exclu que Tuchel puisse, sinon faire tourner, au moins challenger ses joueurs. Et on voit bien qu'il a imposé Di Maria dans ce groupe-là. Donc là-dessus, il y a des joueurs qui sont très sensibles à ça. Di Maria en fait partie. C'est-à-dire que dès qu'on leur donne de l'amour, dès qu'on leur renvoie des choses, ils donnent aussi plus. Et le boulot de Tourelle maintenant, c'est de sortir du positif de tout ça, faire que tout ça, ça soit encore plus fort à 4 que dans les culins,
pour pas avoir de politique.
De toute façon, on va le voir ce week-end, hein, parce que dans l'enchaînement, il y a t'as quand même Lyon qui arrive derrière, même si c'est pas c'est le championnat.
Le gros défi, oui.
C'est toujours un match compliqué pour le Paris Saint-Germain.
C'est partie des matchs que le PSG et que ces gars-là choisissent de jouer,
oui.
Parce qu'on a beaucoup parlé hier,
aussi,
on en parlait tout à l'heure du fait que on aimerait les voir sur le même tempo. Ça me rappelle la première période, Leonardo. On disait beaucoup ça à l'époque de Leonardo, l'arrivée des Qatariens avec Ancelotti, où ils étaient capables de perdre à Reims, et où Leonardo avait dit oui, mais bon.
Pourquoi
ça,
Reims
parce que je me souviens qu'ils avaient perdu à Reims, et que Leonardo avait fait une sortie en disant ben oui, mais c'est la Ligue 1 et tout ça. On sait bien, c'est même inconscient qu'ils choisissent leur match, et finalement, encore une fois, la Ligue 1, ils peuvent la gagner sur une jambe ou presque, ou en faisant vraiment tourner l'équipe, le banc. C'est en Ligue des Champions qu'on va les juger, particulièrement cette année, et au printemps.
Voilà. Alors, on a parlé de Angel Di Maria, il y a aussi Idrissa Ganagay, l'international sénégalais de 29 ans, passé un jour, hein, on ne l'oublie pas à RFI, parce que certains supporters ont l'air de le découvrir, mais il est resté 5 ans au LOSC. Ben écoutons les éloges hier soir autour de Ganagay.
Encore un ballon pour Ganagay, il nous plaît, quel talent.
Attention, un nouveau ballon récupéré par Ganagay, vous allez voir. Ouais.
Allez, Idrissa Ganagay qui récupère encore ce ballon. Je veux ces statistiques, le nombre de ballons touchés.
Idrissa Ganagay, le grand bonhomme de la soirée à l'occasion de cette seconde période.
Gay qui récupère.
Et il récupère, il donne le ballon, Mathieu.
C'est
Gay perdu,
encore,
et oui, Gay, parce que récupère. Quand il faut aller au contact, quand il faut aller
Ganagay,
ça joue propre, les Ganagay, applaudissements des supporters.
Je veux les stats d'Idrissa Ganagay. Le nombre de ballons touchés, le nombre de ballons donnés, et je suis sûr que des ballons perdus, il n'y en aura pas beaucoup.
Les Parisiens avec Ganagay, encore lui.
Alors ces chants qui entourent les commentaires de nos camarades, eh bien c'était au Sénégal, le PSG fan club de Dakar en délire, comme un seul homme derrière un seul homme, sans doute d'ailleurs à faire enrager les fans, le fan club de l'OM, hein, parce que en ce moment le fan club de l'OM de Dakar, il vit des jours moins amusants. Et en tout cas, eh bien on peut avoir un clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent, non seulement au pays de la Teranga, mais aussi du côté de Sali et au Diambars Football Club, son directeur actuel, hein, Saher Sek, et tout le travail qu'ils font. Ils nous avaient un jour si bien reçus dans les locaux de ce club formateur. Alors, Ganagay, il le voulait, il l'a eu, Thomas Tuchel, et ça le rend heureux.
C'est bien qu'il est avec nous. C'est vraiment bien. Il est super important pour nous. Il a beaucoup, beaucoup de qualité. Il est toujours prêt pour jouer pour l'équipe. Avec Marquis, avec Marco, c'est un bon mix avec beaucoup, beaucoup de qualité. Et oui, nous sommes heureux qu'ils ont fait un bon match comme ça.
Heureux, Thomas Tuchel. Alors, Olivier, vous les réclamiez à corps et à cri, ces statistiques, vous les avez?
Oui, enfin, on se les a données avec Eric hier soir,
ouais,
en sortant du match. Elles ont circulé depuis. 94% de passes réussies, je crois que ça en dit beaucoup. 90 ballons touchés, je pense qu'il n'y a pas un joueur sur le terrain qui en a touché plus. En tout cas, pas Keylor Navas. Mais voilà. Et puis, ce qui est formidable, si nos auditeurs ont accès à ça, c'est sur l'équipe ce matin, on publiait là où il avait touché ses ballons. Et là, c'est phénoménal. C'est que d'habitude, on voit des zones.
Il y a une zone.
Il y a une zone. Là,
ça va
aux quatre poteaux de corner. Il est partout.
Il a vu partout.
Je sais pas combien de kilomètres. Ça, j'ai pas cette stat-là.
Non.
Mais 90 ballons, 94% de passes réussies. On se disait hier avec Eric, il a perdu quoi? 3, 4, peut-être 5 ballons dans le match.
C'est 5 ballons maximum.
Alors hier, justement, à la fin du match, vous en avez convenu, Olivier et Eric, c'était le chaînon manquant de cette équipe du Paris Saint-Germain.
Exactement, ouais. J'ai eu justement le tweet de Jimmy Adjovi-Boko qu'il a eu à Diambars et qui me disait justement, elle me dit, je t'avais dit que c'était le chaînon manquant, et c'est vrai, c'est la réalité.
Quand j'ai posé la question à Eric hier en sortant du match, il n'y a pas eu deux secondes d'hésitation.
Ah bah non.
La relation lui disant, c'est le chaînon manquant. Et c'était oui tout de suite.
Ouais, bien sûr, mais c'est parce que c'est une évidence. Alors on a l'impression qu'il sort comme ça du jour au lendemain de non, il a toujours été comme ça. C'est ça le truc, c'est que les gens ne connaissaient pas.
Non,
quand on entendait les commentaires, les commentaires même de supporters parisiens qui disaient on n'est pas sûr machin. Mais je me dis mais comment ils peuvent avant ça, allez voir les matchs avant, vous allez voir que...
Il fallait voir s'il avait le niveau Ligue des Champions. Il n'avait joué que 6 matchs jusqu'ici, et le dernier c'était il y a
7 ans. En 2012.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, sur ce qu'il vient de montrer, alors ça ne reste qu'un match et il y en a d'autres qui vont arriver, mais je ne m'inquiète pas pour ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il est tellement sain dans son...
On l'avait vu contre Strasbourg, lui, c'était un des déjà qu'on avait
repéré. Depuis le début, depuis qu'il joue.
De le gérer, c'est là encore.
Mais c'est ça,
il n'y a pas besoin de gérer ce genre de joueur.
Non, mais l'économiser, physiquement.
Oui, mais en termes de management,
il c'est
quelqu'un d'intelligent. Lui, si tu le mets sur le banc, il va pas te pourrir le vestiaire. Il y a pas de souci.
Mais non, mais il est sain. En plus, il est sain dans sa façon de réfléchir, dans ses interventions, dans le jeu. Et puis, qu'est-ce qu'il est important.
Puis je précise une
chose. Et il fait briller tout le monde autour, parce que Verratti hier, il a pas pris de carton. Il était dans l'agressivité. Il était très bon. Et ça lui a changé un peu sa mentalité.
Une dernière petite chose. Il fait évidemment les télés, détentrice de droits en sortant du match. Ça, c'est quasi une obligation. Il est l'homme du match. Mais il vient après, il est venu, il a pas calculé son temps, il a fait face. Alors vous me direz c'est facile.
Oui, puis,
c'est
facile. C'était son jour.
Mais Annie, c'était son jour. Vous devez au moins une fois ou deux par saison faire une zone d'interview au PSG.
J'en ai fait en Chine.
Si vous venez au Parc des Princes en faire quelques-unes, vous verrez que
et ça serait une zone mixte avec votre présence pour le coup.
Jean-Philippe, est-ce qu'on peut le comparer à quelqu'un qu'on aime, qu'on a beaucoup vu et qu'on a beaucoup encensé en 2018 parmi les champions du monde, un certain N'Golo Kanté?
Ben oui, évidemment, ça fait tout de suite penser à ça. C'est le même profil de joueur, des Makelele, des
en parallèle, hein, parce qu'ils ont à peu près le même âge, ils ont évolué en Angleterre.
Les joueurs de l'ombre, mais qui sont super importants pour le foot, quoi. Moi, je me souviens quand Zidane est revenu en équipe de France. Il a dit, je reviens, mais Makelele aussi. Il savait qu'il avait besoin de Makelele. Et on n'a pas parlé du schéma tactique de Tourelle, mais de jouer en 4-3-3 hier, parce qu'avec les trois au milieu, il sait que c'est solide, ça suffit, et qu'il va pouvoir faire briller les trois devant. Enfin, même si c'est pas la MCN, mais voilà, ça aussi ça compte parce que il a la densité avec Marquinhos, Verratti et Gueye. Il a il couvre un terrain et il récupère tous les ballons. Finalement, la défense elle est sereine aussi derrière.
Oui, et vous le disiez, il fait briller tout le monde devant, derrière. Voilà.
Mais c'est intéressant Idriss Agana Gueye, parce que quand il arrive. Pas personne n'en veut, mais c'est bizarre.
Mais c'est incroyable.
Il est international sénégalais, il arrive d'Everton, c'est 40 millions d'euros, défiance générale ou quasi générale, parce que moi j'étais sur des plateaux.
Sauf que nous on l'avait vu pendant toute la CAN, n'est-ce pas?
Non, mais évidemment, quand on suit la première ligue, on suit. Paredes, alors je veux pas rentrer ici. Paredes, argentin, 8 millions d'euros, il arrive du Zénith. C'est le nouveau Riquelme. Non, mais je veux dire, c'est extraordinaire. Je veux dire, il y a un traitement, très sincèrement, moi qui me surprend.
Alors, c'est le bien. PSG nous a donc tous impressionnés, mais le Real Madrid ne nous a pas impressionnés, vous avez tous commencé à le dire. Une équipe sans énergie, sans moteur, sans réaction, peut-on dire, privée aussi, hein, rappelons-le quand même, de ses meilleurs, et notamment le capitaine Sergio Ramos, si important, mais on peut citer aussi Modric en milieu de terrain, ou Marcelo. Et puis on avait un très triste Eden Hazard.
Oui, c'est ça, j'allais dire privé d'Eden Hazard aussi, parce que il était sur le terrain, mais franchement, il n'avait pas d'essence.
L'équipe lui a mis deux, mais je pense que c'est parce qu'il voulait pas lui mettre zéro.
Il revient de blessure,
c'est compliqué. Finalement, c'est presque pire d'avoir un joueur diminué sur le terrain que
surtout lui.
Ouais, voilà.
Malheureusement, ça l'a pas aidé. Écoutons le diagnostic clair et net que fait Zinedine Zidane en 30 secondes de son équipe.
On a bien commencé notre match, 15 premières minutes, mais il nous a manqué beaucoup d'intensité. On a été mangé en fait dans les duels au milieu de terrain et notre première mi-temps était bonne en début, mais on a vite été dépassé. Et à ce niveau-là, c'est pas possible. Quand on met pas l'intensité, on est vite en difficulté. De toute façon, sur 90 minutes, on s'est pas beaucoup créé d'occasions. Et quand on se crée pas des occasions, c'est compliqué de gagner un adversaire comme Paris. Mais bon, il faut dire qu'ils ont été meilleurs ce soir. Il n'y a rien à redire sur ça. Et nous, il va falloir qu'on se repose là maintenant et passer à notre prochain match. De toute façon, c'est un premier match raté pour nous. Et il va y en avoir beaucoup.
Match raté.
C'est énorme. Cette phrase derrière, elle est énorme.
Il va y en avoir beaucoup.
Je crois qu'il veut pas dire ça comme ça. Hein. Je crois qu'il dit, il y aura beaucoup d'autres matchs, mais on l'entend
quand même.
Il y aura d'autres matchs ratés. Dimanche, c'est à Séville et c'est le leader de la Liga. Hein, donc c'est un test aussi mouse costaud.
Compliqué. Alors l'équipe a mal joué, mais son entraîneur semble être celui qui concentre toutes les critiques en Espagne. Et on y va tout de suite en Espagne rejoindre François David qui a feuilleté la presse pour nous. Bonjour François. Buenas tardes.
Bonjour Annie. Bonjour Annie, bonjour à tous. Je crois que le mot intensité en français et en espagnol, je crois que de la part de Zidane, j'ai entendu 30 fois au moins hier en conférence de presse. C'était
intensité,
le mot. Intensité. Mm-hmm. Intensité. Bon, il se fait. Ouais, évidemment, là c'est l'homme. Ben, c'est la cible un petit peu de toutes les critiques en disant que oui, effectivement, il n'y a pas d'intensité, mais c'est la faute à qui, hein, s'il n'y a pas d'intensité. Et surtout, le fait que bah, vous avez parlé de Gana Gueye. Gueye, hier, a mangé à lui seul les deux milieux de terrain un peu défensifs qu'il y avait au Real Madrid, c'est-à-dire Kroos et Casemiro. Et Zidane n'a pas su répondre au challenge tactique de Thomas Tuchel. Le côté droit, Bale, Carvajal, c'était une autoroute pour Bernat. Et bah, tout ça mélangé, le fait aussi, bah, vous l'avez aussi évoqué, Annie, qu'il y a beaucoup de blessures. Modric, le dernier, Isco, Asensio... Valverde, plus de suspendus Nacho et Sergio Ramos. On pointe aussi du doigt la préparation physique et le recrutement, parce qu'il faut pas oublier que le Real Madrid est l'équipe qui a le plus recruté, enfin en termes de transfert.
Oui. 320
millions.
320 millions.
Ouais, trois. Et bah hier on a Militao, il a pas existé. Hazard, il a eu deux dans l'équipe. Il a pas été bon. Et sans parler aussi, et ça on va aussi revenir à Annie. Bah, la défaillance de certains joueurs. Alors, Toni Kroos était flagrant, mais Thibaut Courtois.
Ben oui.
Thibaut Courtois, il n'a pas arrêté un tir. Il y a juste une statistique. Thibaut Courtois, il a encaissé 11 buts lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions du Real Madrid à l'extérieur.
Mais justement, François, alors Zinedine Zidane, je ne sais pas si tout est de sa faute, on va y venir, mais on a l'impression, tout à l'heure, on parlait du tandem Tuchel et Leonardo, parce qu'il n'y a plus donc Antero Henrique et Leonardo, ouais. Même s'ils ne s'entendent pas trop, mais il a voulu un peu remettre d'ordre dans la maison. Est-ce que, bien que Florentino Pérez ait rappelé Zinedine Zidane, il n'y a pas un peu de friture aussi, et notamment autour du cas Courtois, on le connaît, on le sait.
Bah, Courtois, Zidane a quand même tranché en début de saison. Keylor Navas voulait pas refaire une deuxième saison dans l'ombre de Courtois, qui a quand même été élu meilleur gardien de but lors du Mondial 2018. Mais Zidane a très clairement dit oui, c'est Courtois. Alors est-ce qu'il a fait une concession à Florentino Pérez qu'il avait transféré une année avant? C'est possible, parce qu'il avait quand même confiance en Keylor Navas, il avait quand même fait gagner 3 Ligues des Champions consécutives. Mais Courtois, oui, hein, Courtois, ça fait partie des joueurs aussi. La presse dit que Zidane a mis son veto sur pratiquement toutes les recrues que voulait lui amener Pérez au milieu de terrain. Je parle notamment de Van de Beek, le milieu de Ajax Amsterdam qui allait arriver au Real Madrid. Zidane était obnubilé par Paul Pogba, qu'il n'a pas eu parce que Florentino Pérez n'a jamais voulu acheter Paul Pogba. Et voilà, des petites tensions, même maintenant qu'il y a des grosses tensions. Et hier, c'était une claque. Hein. Vraiment, ici, ils en parlent. C'est quelque chose de terrible, surtout que il y a 10 jours, le PSG était donné presque comme mort avec l'épisode Neymar, c'était un club faible et tout ça. Vous avez parlé de Leonardo, juste une parenthèse, moi je pense aussi qu'il va apporter énormément au niveau de la rigueur et de l'expérience, et c'est peut-être ce qui manque actuellement au Real Madrid, parce qu'il n'y a que Zidane, il n'y a pas un directeur sportif, enfin, il n'y a jamais eu de directeur sportif fort avec Florentino Pérez, mais c'est 8 dimanche. Il ne faudrait pas souper à Séville, il ne faudra pas souper non plus au prochain match.
Nabil Djellit, est-ce que c'est de la faute de Zidane?
Bah en partie, là, ça a forcément sa responsabilité, parce que même quand ils reviennent en deuxième mi-temps, on peut quand même s'attendre à une réaction, il n'y en a pas eu. Franchement, j'en parlais avec Eric, si on n'est pas au courant que c'est le Real Madrid qui joue, si on arrive en cours de match, on est surpris d'apprendre quand même que c'est le Real, et pire encore... Si on n'est pas au courant, on a l'impression que c'est une équipe qui est en train de lâcher son entraîneur, parce qu'il sait absolument mais rien passé. C'est l'électrocardiogramme totalement plat. Maintenant, le diagnostic, on le connaît. Il était là il y a 2 ans. C'est 90% la même équipe, avec des joueurs qui sont en fin de parcours.
On dit même que c'était pratiquement 2013, elle aurait pu être alignée.
Oui, voilà. Pratiquement la même équipe, une équipe qui est pour le coup déclinante. Et je terminerai là-dessus. Je sais qu'en Afrique, Rémi Ngono va apprécier notamment. Bah, quand t'as un joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo, c'est 50 buts par saison. Donc, quand t'as des problèmes, lui, c'est une solution. Il est plus là. Zidane doit se réinventer et doit jouer peut-être autrement.
Il avait Benzema quand même qui en a mis une vingtaine, une trentaine.
Il est en forme. Belle aussi était en forme. Mais
il avait pas Ramos.
Moi, je pense que la responsabilité.
Il y a un sentiment d'embourgeoisement quand même joueurs qui ont peut-être tout gagné. Moi, je trouve que hier, ça manquait quand même cruellement de rébellion,
oui,
d'envie.
Mais, y a
c'était truc, résigné.
On a vu Bell être complètement transparent hier. Franchement,
Bell, c'était pas le pire. Hein.
Non, ouais, mais pas le pire.
Oui, sauf que c'est pas le joueur le plus.
C'est le seul
joueur le plus cher du monde. Ouais,
après, il sort du placard.
Mais voilà. Mais sauf que c'est un mec qui est sorti du placard précisément à cause des blessures des autres, et dont Zidane a ouvertement déclaré cet été qu'il voulait s'en séparer.
Et
c'était même la contre.
Lui et James.
Voilà.
Donc les deux, ça veut dire que les gars sont sur le terrain. Ça veut dire
c'est compliqué quand même de gérer.
Mais alors
ça.
Comment vous voyez, François David, qu'est-ce qu'on peut. Alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, hein, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce qu'il ne va pas recruter là, il est là Zidane, il a les mêmes. Alors si, vider l'infirmerie.
Vider l'infirmerie, effectivement, avoir une réaction, peut-être repenser l'équipe, vous avez raison, hein, sur les mêmes qu'il y a 3-4 ans. Sauf avec 3-4 ans plus maintenant, voilà, et en bourgeoisie un petit peu, avec les jambes qui sont plus lourdes. Et surtout un élément important que retient la presse espagnole, c'est que l'an passé déjà, Zidane fait 4 mois qui sont vraiment pas bons au Real Madrid. Alors, on a mis ça sur le compte du début de saison de Lopetegui, que les joueurs étaient fatigués, que les joueurs étaient lassés, qu'ils avaient eu un coup de pompe post-mondial. Mais là, on a la sensation qu'ils avaient, 6 mois d'avance sur tous les clubs. Et maintenant, ils ont 3 mois de retard sur tous les autres clubs. C'est ça le paradoxe. Et Zidane, maintenant, doit absolument se recomposer. Mais je vous cache pas, là, on est quoi? On est le 19 septembre, Annie. Mm-hmm. Et on parle déjà d'un certain José Mourinho au Real Madrid. Vous savez comment est la presse espagnole? On le sait. Mais José Mourinho, il est libre et...
Il cherche du travail, il le dit partout.
Il a dit aussi que revenir au Real Madrid, il y a quelques mois avant que Zidane soit l'heureux élu ou le malheureux élu, eh bien, ça lui irait bien aussi de retourner au Real. Donc il y a ces tons quand même qui planent et c'est pas n'importe qui Mourinho.
Bon, ben,
je crois
on verra.
Pas, mais moi, sa plus grande erreur, c'est de revenir, parce qu'il doit pas revenir. Moi, pour moi, c'est ce que je pense. Après, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas la même équipe, il sait très bien qu'il n'y a plus Ronaldo, donc son joueur décisif. Sa plus grosse erreur, pour moi, c'est de revenir. Alors, je sais pas s'il a fait plaisir à Fiorentino ou pas, mais en tout cas, c'était pas le meilleur choix, je pense.
Le problème, c'est que Zidane, il va où? Il y a le Real ou la Juve?
C'est sûr.
Il y a que 2 clubs au monde où il peut aller. Il y en avait un qui était
la Juve était cherchée. La Juve cherchait.
Bon, en tout cas, il y a un classico dans un mois, hein, François, et oui. ça va compter aussi. Restez avec nous parce que on va continuer sur ce thème de Ligue des Champions. Une première journée, donc on va être prudent sur les enseignements, puisque on ne veut pas non plus, comme Tuchel, sauter au plafond pour ce qui est de ce Paris Saint-Germain qui nous a enthousiasmés pour l'instant. On a retenu 3, disons, événements, 3 temps forts de cette première journée. On a retenu Liverpool, on a retenu l'Ajax et on a retenu Barcelone. Et pour garder encore quelques instants François David, on va commencer par Barcelone. François David, Barcelone, le Barça, il n'a pas perdu en Allemagne, certes à Dortmund, mais on a du mal à être séduit par cette équipe qui même en championnat a eu du mal. On se souvient de leur défaite le premier jour à Bilbao. Alors, Messi vient tout juste de revenir, mais on a vu Griezmann un peu errer sur le côté gauche. Est-ce que c'est juste qu'il faut être patient?
Bah patient, oui et non, parce que bon, c'est le même système, c'est le même coach, hein, c'est le même coach que l'an passé où il y a eu. Où ils font une fin de saison catastrophique, le même coach est resté. On sent que Valverde n'arrive pas à trouver de solution. Là, il faut absolument qu'il trouve une place pour Griezmann parce que c'est quand même la recrue star avec De Jong du mercato d'été. Et Griezmann, il se sent bien quand Messi et Suarez, ils sont pas là. Sauf que Messi et Suarez, maintenant, ils sont là. Ouais. Donc, il faut absolument trouver une solution pour Griezmann, qui est intelligent, qui a une grosse personnalité. Je m'en fais pas pour lui. Il va marquer. Je parlais de De Jong, c'est l'une des rares satisfactions. On sent que il a pris des responsabilités, qu'il sent qu'il doit prendre des responsabilités, qu'il sent que l'équipe a besoin de lui. Mais c'est un très jeune.
Oui, un très jeune joueur. François, il y a beaucoup de coupures. On va encore tenter. Alors, De Jong est un jeune joueur.
Oui.
Allez-y.
Oui, et qui assume une place de titulaire et de leader au milieu de terrain, alors qu'il a qu'une seule saison dans les jambes, qui est un très jeune joueur, et sans Ter Stegen, l'équipe perd absolument à Dortmund. L'équipe a été malmenée avec des contre-attaques. Le problème aussi, Annie, et Jean Pierre, c'est le même problème que l'an passé, c'est que qu'en attaquant comme Luis Suarez. Un excellent attaquant, mais qui a pas marqué de but depuis 2 saisons hors du Camp Nou, qui perd tous les ballons que les deux rebutent, ça fait des contre-attaques pour l'équipe adverse, et c'est là où le Barça craque. Donc ça reste le Barça à domicile, ils vont faire le boulot. Là, en 2 matchs, ils ont marqué 10 buts à domicile, mais ils ont pas encore gagné un seul match à l'extérieur cette saison, et c'est là aussi où on les attend.
Messieurs, sur le Barça, Jean-Philippe Bouchard.
Je serais un petit peu moins sévère sur le Barça parce que.
C'est pas le Real.
Ben, je pense qu'il y a moins de, il y a un moins de fossé de génération. Le Barça est confronté à la même, au même problème que le Real, hein. Ils ont eu des générations exceptionnelles.
Voilà, un peu moins, parce qu'ils ont recruté quand même
voilà.
des jeunes.
Et le Barça a l'air de réussir une transition plus en douceur que le Real.
Bah déjà, ils gagnent la Liga et c'est énorme.
Voilà. Donc, on parlait de fin de saison catastrophique quand il y a une oui. victoire en Liga, c'est un peu sévère.
On pense à la Ligue des Champions et Liverpool.
Évidemment, mais il y a un seul club qui la gagne, la Ligue des Champions.
Oui, année. Puis la Coupe du Roi, voilà. nous rappelle
et,
François.
Et la Coupe du Roi contre Valence,
ouais. Oui, non, ce que je veux dire, c'est pas une grosse saison pour Barcelone, mais elle est pas.
Non, mais je parlais de l'équipe qui était si séduisante avant, qui allait jusqu'en quart de finale sûr, en Ligue des Champions, qui était toujours parmi les favoris. Là, bon, on la met presque parmi les favoris par devoir.
Ils ont perdu des sacrés joueurs, hein, entre Xavi, Iniesta.
Ils ont toujours Messi, ils ont Suarez, ils ont Griezmann.
Messi commence à se blesser un peu plus souvent. Là, il a manqué tout le début du championnat, donc peut-être que ça va changer les choses, et certainement, parce que c'est Messi. Mais Messi, on sait que depuis toujours, au Barça, il est un peu protégé. Non, il est pas un peu vieillissant, mais il est un peu protégé parce que on sait que physiquement, il faut le protéger, il faut faire attention, on sait qu'on va pas lui demander
de
défendre.
Le faire durer.
Parce que, donc bien sûr, il faut le gérer. Donc c'est pour ça qu'on a pris Griezmann, c'est pour ça qu'on a pris qu'on compte sur Suarez derrière et qu'il va falloir peut-être, si Dembélé il a envie de jouer à un moment donné, il pourra peut-être dépanner aussi, donc mais il y a moins de fossés que le Real.
C'était une équipe qui avait une marge sur les autres, elle ne l'a plus aujourd'hui, elle est rentrée dans le rang. C'était une équipe extraordinaire avec Messi, aujourd'hui c'est une équipe ordinaire mais à très haut niveau avec Messi, parce que la saison dernière, s'il n'y a pas Messi, Valverde il est plus là. Faut dire à un moment les choses, parce que et il lui a réglé plus d'un problème. Je crois qu'il a mis 35 ou 36 buts en Liga. Le deuxième c'était Benzema et Suarez qui étaient à 23. Je veux dire, il y a un joueur qui tient cette équipe. Après, l'expression collective, elle n'est plus du tout la même. Et le milieu de terrain du FC Barcelone est beaucoup moins... Souvent, franchement, face à Dortmund, c'est bien servi de 0-0 parce que par séquence, ils ont pris un sacré bouillon.
Ouais, et c'est vrai que Ter Stegen les a sauvés. Merci beaucoup, François-David, d'avoir été en direct dans Radio Foot. Et à très, très bientôt, donc, pour notamment évoquer encore le Real Madrid. À bientôt.
Hasta luego.
Hasta luego. Il y avait aussi, ce fait survenu dans le sud de l'Italie, au pied du Vésuve, avec Napoli.
Llorente on target, Napoli 2, Liverpool 0.
Alors là, défaite des champions en titre. Les Reds battus à Napoli hein, dans les dernières secondes. C'était un peu comme l'an dernier, sauf qu'au lieu qu'il y ait un seul but, il y en a eu deux. Jean-Philippe, mais est-ce que c'est surprenant? Parce qu'on sait qu'ils voyageaient mal, les Reds, l'année dernière déjà.
Bah oui, ils avaient eu des difficultés.
Ils sont champions et continuent à mal voyager.
En phase de groupe. Non, mais là, pour la couronne est trop lourde. On est sur la première journée, mais là, c'était pas la première journée, c'était la revanche. Donc,
c'est oui, parce qu'ils les avaient éliminés, effectivement.
Oui, voilà. Donc, je crois que ça avait été assez mal vécu à Naples. Et donc il y a eu un engagement sans doute qui n'était pas habituel à cette époque de l'année. Et par ailleurs, on l'a vu pour le Real, enfin pour la plupart des grosses écuries, ces premiers matchs sont difficiles. Hein, tout l'automne est quand même c'est des mises en route qui sont lentes et il faut que tout se mette en place. Liverpool est parti encore là.
Sauf qu'ils sont en tête du championnat, ils ont 5 points d'avance. Ça s'est bien passé.
Ils sont à 100% en première ligue, mais là ils ont été confrontés au niveau international et il y avait sans doute un petit peu de retard à l'allumage, quoi. Mais je considère pas ça comme inquiétant, d'autant qu'on voit ce qu'ils font en première ligue.
Non, puis même là, quand on voit la physionomie du match, il y a eu quand même des occasions pour Liverpool. Mm-hmm. C'était un match intéressant. C'était pas très loin de les voir ouvrir le score. Donc là, c'était un match sérieux. Après. C'est un penalty. Franchement, il y a un angle de caméra qui me dit OK, il y a penalty, l'autre il me dit non. Donc après c'est le choix de l'arbitre. Franchement, non mais voilà. Enfin c'est très compliqué. Et puis après il y a Van Dijk qui emmène ce ballon dans l'axe là où je sais pas pourquoi il fait ça, mais il panique un peu.
Un moment d'égarement.
Voilà, mais c'est c'est des petits faits de jeu qui font que bon bah à la fin c'est Naples qui gagne, mais ça aurait pu
sans doute parce
qu'en étaient... jouant mieux les contres, ça aurait pu finir autrement pour le pour le pour le
Naples avait le petit le petit aiguillon en plus.
Ouais. Nabil, il y a eu aussi cette rencontre entre l'Ajax et et Lille. Alors évidemment on a beaucoup regardé, mais on était resté sur cet Ajax qui nous avait épaté l'année dernière parce que tout d'un coup on avait vu resurgir un peu ce passé du côté d'Amsterdam. Malgré les départs donc pour d'autres clubs de deux joueurs essentiels, c'était peut-être surprenant de les voir maintenir le niveau.
Oui, tout à fait. Alors effectivement,
c'était Lille en face qui était débutant.
Oui, mais Lille qui est quand même une équipe qui a de l'énergie, qui a du talent. La saison dernière sur un match, ils ont quand même collé un 5-1 au PSG.
Oui, eux aussi ont beaucoup changé.
Oh, ouais, certes, ça va, Nabil, arrête.
Nicolas Pepe n'est plus là et Thiago Mendes également brésilien est parti. Après, on a eu un sentiment de continuité dans le jeu du Barça, c'est marrant, mais de l'Ajax pour le coup, parce qu'ils ont quand même conservé des joueurs importants et d'autres ont un peu pris la relève de ceux qui sont partis. Ils ont encore recruté intelligemment. On verra si ça se pérennise sur le temps.
Oui, notamment le buteur Quincy
Promesse qui a été formé du côté de l'Ajax, qui est parti en Russie entre temps. On a vu aussi Martinez qui est intéressant, le défenseur argentin capable de jouer au milieu et en défense. Et puis après, il y a des joueurs qui se subliment lors de cette compétition. Hakim Ziyech a encore été absolument fantastique. Tadic a été un facilitateur de jeu incroyable. Ils étaient vraiment au-dessus de Lille. Moi, je me
le
fais
Brésilien
pas de soucis. Ouais, Neres aussi qui est encore là, vous avez raison de le rappeler. Je me fais pas de soucis concernant la qualification en huitième de finale pour cette équipe de l'Ajax. C'est après reproduire ce qu'ils ont fait la saison dernière, ça va être quand même beaucoup plus compliqué.
Eric.
Mais après, il y a quand même un par rapport à la physionomie du match, Lille, s'il connaît, marque son but, ça fait 1-1, c'est peut-être un autre match qui se joue. Ils apprennent de leurs erreurs en fait. C'est-à-dire que là, on a senti le manque d'expérience par rapport à cette équipe de l'Ajax et ils ont payé cher leur apprentissage.
Un des personnages importants de cette équipe, il a été homme du match, c'est Onana, le gardien camerounais aussi dans cette équipe. Resté là à l'Ajax, Jean-Philippe.
Bah oui, tout le monde n'est pas parti heureusement.
Bah oui, il en reste quelques-uns.
C'est au-delà de la boutade, en fait, on a clairement vu qu'il y avait une équipe qui était sur sa lancée, qui avait acquis de l'expérience, même s'il y a eu des départs, et une équipe qui découvrait la compétition. Ouais, et la Ligue des Champions, c'est très particulier. La veille des matchs, quand les équipes reconnaissent le stade, il y a ceux qui arrivent dans le stade et il y a ceux qui regardent la pelouse et qui sont déjà dans le match. C'est parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils l'ont fait. Voilà, c'est des différences qui sont. C'est l'expérience et l'expérience du haut niveau, et ça se remplace pas. Et manifestement, c'était ça la différence, malgré la jeunesse de l'effectif de l'Ajax.
De l'Ajax. Et l'Ajax, ce qui est intéressant, parce qu'on connaît les équipes qui ont des pratiques comme Lille et Monaco, donc qui, après une belle saison, vont vendre leurs meilleurs. Eux, ils en ont vendu certains, sûrement par nécessité, mais ils ont su garder une ossature importante.
Forte, hein, une colonne vertébrale, vous avez raison. Onana est là, Van de Beek, dont vous parliez tout à l'heure, n'est pas parti au Real. Hakim Ziyech a prolongé alors qu'on l'imaginait voir partir. Neres, pareil, était courtisé. Tadic également est resté. L'Argentin sur le côté, le latéral, Tagliafico. Mazraoui, même s'il n'était pas là, est resté. Finalement, ils ont perdu deux joueurs. Voilà, deux joueurs. Mais deux joueurs, quand même, qui étaient deux joueurs extrêmement emblématiques.
La force de l'Ajax, c'était quand même d'avoir son style de jeu et ce collectif. Ouais. Hein,
donc, mais ils ont souffert ça, quand même sur les matchs de qualification. Le match retour là-bas...
Et c'est le LOSC qui risque de souffrir encore la prochaine journée, mais on verra, ils joueront Chelsea. Et Chelsea qui a été battu chez lui à Londres, donc réponse eh bien dans 15 jours. Et puis on se retrouvera eh bien dans le Café des Sports demain, nous tous, David Finzel, Laurent Salerno, Pierre Guérin et moi. On vous dit à demain. À plus.